Mondial Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Mondial Sport. Avec au menu ce soir, l'insatiable Novak Djokovic, le bondissant Burkinabé Hugues Fabrice Zango, le 15 de France du rugby, la tropicale Amissa Bongo, le foot en Europe et en particulier en Italie. Mais tout d'abord, on file à Herning, au Danemark. Retrouvez le Mister Handball de RFI, j'ai nommé Christophe Diremzian. Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Le Danemark qui jubile ce dimanche pour la première fois champion du monde de handball avec une nouvelle démonstration en finale contre la Norvège cet après-midi. Victoire 31-22 et pas vraiment de suspense Christophe.
Ah non, c'était écrit. Les Danois ont été injouables et pas plus que la première fois lors du tour préliminaire. Les Norvégiens ont pu enrayer la belle mécanique des champions olympiques devant leur formidable public de Herning. Déjà 7 buts de retard à la pause, 9 à l'arrivée. Et ça aurait pu être pire, franchement. Le Danemark est resté maître chez lui, devient maître du monde donc pour la première fois, porté par ses nombreuses individualités, à commencer évidemment encore et toujours par Mikkel Hansen, l'arrière du PSG. 7 buts ce soir et heureux comme tout de vivre un tel instant.
Gagner les Coupes du Monde ici à la maison, c'est un rêve tu as quand tu es petit, jouer la finale des Coupes du Monde devant 15 000 fans, c'est vraiment un truc incroyable. On a vraiment joué avec la confiance tout le temps et on a trouvé la solution chaque fois. Les autres équipes ont changé quelque chose, nous aussi on a changé des trucs et on a trouvé des super solutions pour chaque joueur.
Mikkel Hansen, sacré meilleur joueur et meilleur marqueur de ce mondial avec 72 buts. Avec lui, c'est une équipe du Danemark qui s'en va donc directement aux Jeux de Tokyo pour tenter le doublé.
Du suspense, il y en a eu quand même lors de la petite finale cet après-midi, Christophe, et la France qui s'est consolée en décrochant la médaille de bronze, une victoire sur le fil face à l'Allemagne 26-25.
Et comme on le pressentait, Eric, un match nerveux, étouffant, où les Français, mal partis, menés de 4 buts à la pause, ont fini cette fois par revenir. Un mano à mano qui s'est décanté, tout un symbole, grâce à un but de Nicolas Karabatic en contre-attaque à la dernière seconde. But validé après vérification vidéo. Incroyable coup du destin pour la vedette du PSG, revenu plus vite que prévu, on le sait, dans le groupe, après son opération au pied et qui a mis la touche finale à l'obtention de cette troisième place, évidemment à sa grande joie.
C'est magique. Bien sûr, je suis content d'avoir pu être avec l'équipe, d'avoir pu les aider, surtout d'avoir pu faire ce championnat du monde, alors qu'au début, quand je me suis blessé, c'était hors de question. Enfin, pour moi, c'était 6 mois minimum. J'espérais juste pouvoir revenir un jour jouer au handball sans douleur et pouvoir être là avec l'équipe au bout de 2 mois et demi. C'est juste magique et je suis heureux parce que cette équipe-là, on allait le chercher, on s'est battu sur le terrain. On n'a pas joué le meilleur handball du tournoi. Je pense même que les Allemands tactiquement jouaient mieux que nous, mais on s'est battu, on a réajusté certaines choses et on allait la chercher avec beaucoup de valeur aujourd'hui.
Alors si cette troisième place laisse un petit goût d'inachevé quand on connaît le statut et le potentiel des Français, eh bien leur parcours dans ce mondial reste très honorable et sans occulter le manque de maturité de cette équipe en plein renouvellement de génération, eh bien le sélectionneur adjoint Guillaume Gilles rappelle d'abord sa régularité.
Cette stabilité, malgré des générations qui évoluent, c'est extrêmement difficile. Et on a tendance un peu à banaliser la performance. Et c'est vrai qu'à l'issue de notre demi-finale ratée, les commentaires étaient un peu sévères sur le jeu de l'équipe. Et par moments, je peux comprendre certaines critiques parce qu'on n'a pas montré un visage resplendissant durant la compétition. Mais on a su trouver un chemin avec ce groupe. Et quelle magnifique fin d'aventure que de pouvoir fêter avec les garçons cette fin de compète avec une magnifique médaille de bronze.
Et la France peut toujours espérer évidemment aller aux Jeux Olympiques de Tokyo, elle aussi. Si elle n'est pas championne d'Europe l'année prochaine, elle disputera au moins un tournoi de qualification olympique.
Alors avant de se quitter, Christophe, un constat issu de ce mondial 2019, c'est un petit peu toujours le même. L'Europe reste ultra dominante au tableau d'honneur.
Eh oui, 9 équipes rescapées du tour préliminaire sur 12 sont issues du vieux continent, mais parmi les 3 autres, 2 sont africaines, l'Égypte et la Tunisie. Les Égyptiens finissent 8e de ce mondial, c'est leur meilleur résultat depuis leur 4e place en 2001. Et ce classement va permettre au continent africain d'avoir la garantie de 2 places pour les tournois de qualification olympique du printemps 2020. L'Égypte, par ailleurs, sera le prochain organisateur du mondial en 2021. Ce sera la première édition à 32 équipes.
Merci beaucoup Christophe Diremzian, très bonne soirée au Danemark.
Au revoir Eric.
Novak Djokovic était trop fort ce matin à Melbourne. Le Serbe a écrasé l'Espagnol Rafael Nadal en finale 6-3, 6-2, 6-3 pour s'adjuger l'Open d'Australie pour la 7e fois de sa carrière. C'est un record. À 31 ans, le numéro 1 mondial décroche ainsi le 15e trophée du Grand Chelem de sa carrière. Pour en parler, nous accueillons Arnaud Di Pasquale. Bonsoir.
Bonsoir.
ancien directeur technique du tennis français. Vous avez commenté cette quinzaine australienne sur la chaîne Eurosport. Alors dites-moi Arnaud, cette finale, on en salivait à l'avance. On s'attendait à un combat homérique entre Djokovic et Nadal, à l'image de cette finale à l'Open d'Australie 2012, remportée en 6 heures par Djoko. On se rappelle également de leur dernier duel à Wimbledon, conclu 10 à 8 au 5e set sur là encore une victoire du Serbe. Ce matin, à peine 2 heures de jeu, on est un peu déçus là, non ?
Ouais, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim. On s'attendait à un choc, à un duel de titans, au regard surtout du niveau de jeu produit par les deux hommes pour arriver jusque-là. Et finalement, Djokovic l'a emporté assez facilement, à la surprise un peu générale.
Djokovic a vraiment pris d'entrée à la gorge Rafael Nadal.
Oui, c'est impressionnant d'avoir réussi surtout à tenir sa ligne comme il l'a fait. Il a joué encore plus sur sa ligne et dans le terrain même qu'il ne l'a fait sur les tours précédents pour empêcher finalement Nadal de développer son jeu, pour lui enlever du temps, pour le faire rater, donc en jouant très tôt tout le temps. Et la difficulté, c'était de tenir et de n'avoir pas de baisse de régime de ce côté-là. Et c'est ce qu'il est parvenu à faire sur ces trois sets, avec des statistiques aussi assez affolantes, puisque uniquement... je crois que c'est 14 fautes directes en comptabilisant la demi et la finale cumulées, donc ce qui est absolument très peu, surtout avec la manière dont il a joué. Donc c'est quasiment un chef-d'œuvre, je trouve, de la part de Djokovic sur cette finale.
Rafael Nadal, il a eu quelques petites ouvertures, on l'a vu au deuxième, au troisième set, mais non, il a pas su passer la vitesse supérieure et les saisir malgré son bon parcours précédent à Melbourne.
Oui, alors c'est vrai qu'on s'attendait à un Nadal peut-être un peu meilleur en défense, et c'est ce qui lui a peut-être fait défaut aujourd'hui face à Djokovic. Mais globalement, son parcours est assez impressionnant aussi. Il perd pas un set avant d'arriver en finale. On joue un niveau de jeu quand même exceptionnel par moment. On l'attendait pas non plus à ce niveau-là. Il est parti sur ce tournoi pour rassurer. Il n'avait pas joué depuis l'US Open l'année dernière. Donc, beaucoup de difficultés, beaucoup d'abnégation aussi de son côté. Enfin, et une force de caractère toujours aussi forte. On peut qu'admirer, encore une fois, sa prestation sur la quinzaine, même si cette finale, voilà. On peut pas dire qu'il passe à côté, je crois pas qu'il passe à côté, je crois qu'il est tombé vraiment sur un Djokovic stratosphérique, bien au-dessus du lot, qui était vraiment quasiment en état de grâce sur cette finale.
Djokovic, justement, troisième grand chelem d'affilée après Wimbledon et l'US Open l'an dernier. D'ailleurs, l'an dernier, à la même époque, il rappelait lors de son discours, là, à la remise du trophée, que début 2018, il se faisait opérer du coude. On peut parler d'un retour au premier plan exceptionnel. Est-ce qu'il est meilleur qu'avant, même si c'est toujours difficile de comparer?
Je ne crois pas qu'il soit meilleur. Je crois qu'il a atteint un niveau de jeu exceptionnel qu'il a rarement atteint. Après, de là à dire qu'il est meilleur, je ne crois pas. C'est peut-être qualité de service, parce qu'il a, pareil, des stats assez affolantes de ce côté-là. Je crois qu'il a 4 jeux blancs sur son service au premier set. Enfin, et puis, il a perdu très, très peu de points sur son service. Donc, peut-être qu'il a mieux servi. Sa qualité de retour est toujours impressionnante. Donc, de là à dire qu'il progresse, non, il est à la quintessence de ce qu'il est capable de faire. Mais c'est peut-être pas au-dessus de ce qu'il a déjà produit.
Djokovic en est maintenant à 15 trophées du Grand Chelem, Nadal à 17, Federer à 20. Bon, à ce train-là, est-ce qu'on peut penser que Djokovic, qui n'a que 31 ans, peut espérer les dépasser ?
Ouais, il peut la rattraper, hein. Je crois que c'est clairement dans ses cordes quand il joue comme ça, quand on voit les 6 derniers mois de 2018, à quel point il est capable d'être constant dans son niveau de jeu moyen, et quand il arrive à être mentalement la tête à l'endroit, il est clairement au-dessus du lot, hein, et au-dessus de Federer, au-dessus de Nadal. C'est confirmé encore d'ailleurs sur cette édition là de l'Open d'Australie. Donc en effet, ouais, s'il continue comme ça, s'il n'y a pas de pépin physique, s'il n'y a pas de mental défaillant, il y a de grandes chances qu'il puisse à minima rejoindre Rafael Nadal, et pourquoi pas aller au moins égaler en effet les 20 titres de Grand Chelem de Roger.
Djokovic qui, s'il remporte le prochain Grand Chelem, ça sera Roland-Garros, réaliserait le Grand Chelem sur 2 saisons. Il avait déjà fait la passe de 4 ouais. De cette manière en 2016. Le Grand Chelem, 2 Français l'ont fait ce matin, ou du moins remporté les 4 tournois majeurs dans leur carrière. Il s'agit de Pierre Hugerbert et de Nicolas Mahut qui ont remporté cette Open d'Australie ce matin. Chapeau, hein.
Ouais, c'est super de les voir remporter ce tournoi. Enfin voilà, ils jouent ensemble depuis un moment. Il y a une entente qui est parfaite. On sait que la communication est essentielle. Enfin, en double, ils se connaissent par cœur et on sent que voilà, ils ont pas de limites. Ils battent les meilleures équipes. Ils sont très forts. Ils sont devenus des piliers en Coupe Davis ces dernières années. C'est pas un hasard, ils jouent très souvent ensemble et maintenant ils ont réussi à gagner celui qui leur manquait. Et ils marquent aussi l'histoire à leur manière, c'est une très 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 belle récompense du travail fourni par ces deux joueurs.
Ils entrent en effet dans l'histoire puisque Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut forment le huitième duo couronné dans les quatre tournois majeurs. Ce n'est pas rien. Merci beaucoup Arnaud Di Pasquale, à bientôt.
À bientôt.
Allez, on souhaite la bienvenue maintenant à Frédéric Chuteau, bonsoir.
Bonsoir Eric.
On va parler cyclisme avec vous de la Tropicale Amissa Bongo, 14e édition. Elle s'est achevée ce dimanche à Libreville.
Oui, 7e et dernière étape de cette Tropicale 2019. Il y avait du beau monde cette année. Cela s'est vu dans la configuration de la course et des étapes. Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Vous nous avez fait vivre depuis une semaine cette Tropicale, Olivier. On va le voir, le grand vainqueur de l'épreuve, il est italien, Nicolo Bonifazio. C'est un sprinteur, toutes les arrivées se sont jouées au sprint et c'est la particularité de cette édition. Une course qui a été cadenassée par les équipes de sprinteurs venues d'Europe. Cela s'est encore vérifié, Olivier, ce dimanche pour la dernière étape à Libreville.
Oui, un sprint 7 sur 7 de ce côté-là, Frédéric, en 7 étapes sur cette Tropicale Amissa Bongo. Cette fois et pour la deuxième fois de la semaine, il a été remporté par le Français de l'île de la Réunion, tout de même Lorenzo Manzin devant l'Allemand Greipel et l'Algérien Reguigui, encore placé, jamais gagnant. Un joli coup pour Manzin qui le ramène à 6 secondes au général du maillot jaune depuis une semaine. Celui qui a remporté 3 étapes et qui remporte donc cette 14e édition, l'Italien, vous l'avez dit, Nicolo Bonifazio. Manzin et Greipel donc complètent un podium 100% européen d'équipes françaises qui vont lutter jusqu'à mi-mars, on en a parlé, pour 2 invitations seulement pour 3 équipes sur le prochain Tour de France. Alors, est-ce que Bonifazio fait un beau vainqueur? Question posée à Thomas Voeckler, l'ancien pro maillot jaune sur le Tour de France. Il est un jeune retraité et parrain de cette édition. On écoute Thomas Voeckler.
Un beau vainqueur d'une course, c'est le coureur qui mérite de gagner, à la régulière, qui respecte les règles, qui est fair-play. Je pense que c'est le cas de ce coureur, d'autant que son équipe a parfaitement géré la course et le travail d'équipe.
Un petit mot forcément sur les Africains dans cette course. Vous l'avez disputé 4 fois en tant que coureur, vous êtes maintenant suiveur, vous avez un œil avisé. Est-ce que vous les sentez vraiment progresser?
Oui, ils progressent. Alors, il y a des pays qui progressent plus vite que d'autres, bien entendu. Peut-être ont-ils plus de moyens, ils sont peut-être mieux structurés. Je pense au Rwanda et à l'Érythrée qui sont vraiment les deux fers de lance, on peut dire, de l'Afrique. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des équipes comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, comme le Cameroun, qui ont un petit peu plus de mal, mais je pense pas que ça soit un manque de potentiel physique, mais plus de peut-être de bonne volonté. Alors, est-ce dans leur propre pays ou alors de la part des instances du cyclisme international qui doivent aussi aider au développement du cyclisme africain? Mais très honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de coureurs africains lâchés sur cette Tropicale. Ça roule à la vitesse de course en Europe, alors ils gagnent peut-être pas, ils sont pas ridicules du tout, ils arrivent à s'échapper, ils font la course. Il y a une dizaine d'années à la Tropicale, le niveau du cyclisme africain était inférieur à aujourd'hui, ça c'est certain.
Thomas Voeckler et son œil avisé d'ancien coureur, il nous parle de ce potentiel indéniable des coureurs africains. Olivier Pron, dans le détail, quel est le bilan pour ces coureurs? Justement, parlez-nous peut-être des Rwandais tout d'abord.
Ils étaient tenants du titre, Frédéric, et ils repartent bredouille. Les Rwandais, Didier Munyaneza, le meilleur et 8e au classement général, meilleur jeune tout de même, ça n'est pas rien. Pas d'étape remportée, contrairement aux Érythréens qui en ont remporté une et placent 4 coureurs dans les 10 premiers. Le directeur sportif des Rwandais, Félix Saint-Pomain, on l'entend souvent, il nous disait qu'il n'était pas content mais satisfait. Alors on lui a demandé de choisir.
Je connais mes garçons, ils ont fait tout possible pour gagner une étape. Ça n'a pas été parce qu'on faisait beaucoup des échappées, mais il y a les pelotons qui nous chassaient chaque fois qu'on fait des attaques. Mais ça va quand même. Même si on ne remporte pas la Tropicale, c'est une bonne préparation pour le Tour du Rwanda.
Et puis le meilleur jeune, c'est déjà ça de prix, un coureur meilleur jeune sur la Tropicale.
Oui, le meilleur jeune a le prix et aussi le meilleur grimpeur, on est 3e. Sur le classement général, on est au top 10. C'est pas très mauvais.
Voilà pour les Rwandais. Olivier, pour les autres, les Ivoiriens notamment, qu'en est-il?
Ah bah alors derrière, on va vous faire le classement. Derrière les Érythréens et les Rwandais, premier et deuxième équipe africaine sur 10, on a les Éthiopiens, les Mauriciens, chapeau pour une première participation. Les Marocains sont 5e, les Algériens grâce à Reguigui et Lagab sont 6e, 7e les Burkinabés, 8e les Camerounais, on va en reparler, 9e les Ivoiriens et bon dernier, les Gabonais, ce n'est pas une surprise. Les Ivoiriens, donc 9e sur 10 et pourtant, leur leader Issiaka Cissé est 11e ex-aequo au général, seul, trop seul en Afrique de l'Ouest et centrale et c'est un peu décevant. On écoute Issiaka Cissé.
J'ai voulu faire mieux que ça, comme les autres années où j'ai fini dans le top 10. Mais je suis content aussi d'être dans le top 15. Ça prouve que je reviens petit à petit. Chez nous, c'est très difficile, il n'y a pas de relève pour le moment. On espère que les choses vont changer en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir la relève et pourquoi pas avoir des coureurs en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale qui passent pro dans les années à venir. C'est vrai que c'est très difficile.
Eh oui, c'est difficile. Alors j'avais dit que l'on reparlerait des Camerounais, 8e équipe africaine sur 10. Bah, je tiens promesse, hein, les Camerounais. La satisfaction de finir au complet, 6 coureurs engagés, 6 à l'arrivée. Voilà ce qui satisfait leur leader Clovis Kamzong à Bosolo.
Je suis satisfait de mon équipe parce que c'est une équipe première, c'est peut-être la première fois que je conduis une équipe à la tropicale et on finit la course à 6. Je pense que vraiment aujourd'hui on est très satisfait de notre performance et avec le Cameroun qui a porté la combativité à une étape, je pense que c'était très très dur pour les équipes et nous-mêmes, mais on a tiré les leçons.
On a tiré les leçons, Clovis Kamzong à Bosolo, oui. Il y aura d'autres rendez-vous. Le prochain grand tour en Afrique, Frédéric, ce sera le tour du Rwanda fin février. On y sera avec Thomas de Saint-Léger. D'ici là, début février, dans 8 jours, le tour de l'espoir réservé aux moins de 23 ans aux jeunes. Ce sera au Cameroun.
Merci beaucoup. Bilan complet de cette tropicale à Missa Bongo, signé Olivier Pron en direct de Libreville avec Médard Chablaoui pour les moyens techniques. Messieurs, bonne soirée. Et ne tardez pas, hein, l'avion va bientôt décoller.
Merci beaucoup Olivier Pron, merci Frédéric Suto, bonne soirée à vous. On va parler athlétisme. Tiens, un sport que vous aimez tout particulièrement, que vous pratiquez même, vous êtes un grand marathonien, mais là il s'agit de triple saut et de la grande performance ce dimanche à Bercy du Burkinabé Hugues Fabrice Zango, le champion d'Afrique de la discipline, en retombant à 17,58 m. Il a amélioré son propre record d'Afrique en salle, la confirmation de l'émergence d'un grand talent, bien aidé par son nouvel entraîneur qui n'est autre que le français. C'est Teddy Tamgo, tout simplement, le recordman du monde en salle. Christophe Jousset était sur place à Bercy.
Dans ce meeting de Bercy où s'enchaînent sprint et saut pour emballer le public sur fond de décibels et d'effets de lumière, Hugues Fabrice Zango a bien compris l'idée, le show, il va le faire jusqu'au bout. Le voilà en finale du concours contre le Cubain Diaz. Tout se joue sur un essai seulement. Le Burkinabé s'élance, il emporte tout. 17,58 m, meilleure performance mondiale de l'année. Il améliore de 35 cm le record d'Afrique en salle dont il s'est emparé il y a un an, jour pour jour. Et le plus fort, c'est que cette performance, il l'avait annoncée à la veille de la compétition.
J'étais venu pour le record d'Afrique. Ça s'est passé mieux que prévu. 17,58, c'est un cap de passé. Depuis un moment, on savait que je les avais. J'étais bien physiquement, prêt mentalement, physiquement et tout. Hier, je disais que tout était ouvert. Bah, il fallait sortir la perf. Après, c'est vrai que j'ai un peu galéré sur le début de concours, comme vous avez vu, parce que la piste, j'ai eu besoin de 3 sauts pour m'adapter. Et après, bah, c'est parti un peu plus facilement. 58, c'est juste le fruit du boulot, quoi. Après, je pense que on va pas parier sur la suite, mais ouais, la suite, j'espère qu'elle sera mieux.
Hugues Fabrice Zango ne sort pas de nulle part. Né à Ouagadougou il y a un peu plus de 25 ans, il mêle études et sports de haut niveau depuis quelques années en France. Il a fait les Jeux Olympiques à Rio, terminé 6e des championnats du monde en salle et décroché l'été dernier au Nigeria un premier titre de champion d'Afrique. Mais depuis, une rencontre a accéléré sa progression. La rencontre avec Teddy Tamgo, qui a été champion du monde en salle du triple saut en 2010. Tamgo, sérieusement blessé en 2016, espère toujours reprendre le cours de sa carrière. En attendant, il entraîne depuis septembre l'étalon triple sauteur qui avait bien besoin d'un tel mentor.
Depuis le début de ma carrière, pratiquement, je ne me suis pas vraiment entraîné avec un spécialiste du saut. Pour moi, il fallait effectivement trouver un coach pour lequel le saut, en fait, est une priorité. J'ai cherché, mais vraiment, mon contact avec Teddy Tamgo s'est fait par l'intermédiaire de Gaëtan Buki, qui est lanceur de poids de mon club. Gaëtan, il m'a dit, ouais, toi, il te faut un coach spécialisé parce que là, tu as beaucoup de force, tu as tout, mais tu as énormément de lacunes techniques. Je sais que, voilà, quelqu'un qui fait que du saut pourra t'apporter quelque chose. Et cette année, je me retrouve avec lui.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Vraiment, j'ai un immense respect pour sa personne. Parce que ce qu'il a fait pour le trips, c'est ridiculement incroyable, en fait. C'est juste énorme. Là, voilà, je suis sous son aile et, en fait, c'est un modèle.
Teddy Tamgo détient le record du monde en salle avec 17,92 m. Un record qui pourrait tôt ou tard être menacé par l'athlète qui l'entraîne. Lui-même ne sait pas jusqu'où Zango peut aller.
Je n'aime pas donner de pronostic. Parce que tout le monde a une limite. Même si la sienne, je ne l'ai pas encore, je ne la vois pas encore de manière claire, nette, précise. Mais disons qu'il y a un gros moteur, tout simplement. Il y a un gros moteur sous le capot. Il est rapide, très élastique. Il est très très fort, vous avez pu voir un peu le corps qu'il a. C'est une personne qui a tout pour être un grand sauteur. Et il l'a montré, il le montre, il commence à le montrer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau mondial, tout le monde sait qu'il est présent. Parce qu'aujourd'hui, il a quand même il a sonné à la porte des meilleurs et dire, voilà, je suis encore loin de vous, mais sachez que je suis présent.
En plus d'avoir un gros moteur, le Burkinabé a un cerveau bien fait. Étudiant brillant en génie électrique à Béthune, dans le nord de la France, il espère boucler un doctorat dans 3 ans. Et ce projet-là est pour lui aussi important que ce qu'il fait sur les sautoirs.
Vraiment, ce doctorat, c'est un truc qui me tient à cœur, ce double projet-là, parce que je pense que la reconversion après l'athlète, elle est importante. Pour moi, c'est très important d'obtenir ce doctorat.
Le regard porte loin et Teddy Tamgo se régale à entraîner un sauteur à qui il ne faut pas répéter plusieurs fois les consignes.
Il capte très vite. On sent le master, on sent le doctorat, ça percute très vite.
Hugues Fabrice Zango a encore quelques meetings à son programme cet hiver. Ensuite, il se reposera avant de reprendre l'entraînement en prévision des championnats du monde en plein air, programmés tard cette saison, fin septembre, début octobre, au Qatar. Il compte bien y exprimer tout son potentiel. Christophe Jousset, Bercy, RFI.
Et après Doha, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Avant de parler football et d'aller en Italie, on se projette sur la semaine qui vient. Vendredi débute le tournoi des 6 nations de rugby. C'est le 15 de France qui va ouvrir le bal au Stade de France face au Pays de Galles. Un tournoi 2019 qui constitue un banc d'essai en cette année de Coupe du Monde pour des Bleus toujours aussi peu sûrs d'eux-mêmes. Le reportage Antoine Grenier.
On avait laissé les Bleus en novembre sur une défaite face aux Fidji, un ultime revers des hommes de Jacques Brunel en 2018. Après, pourtant, un succès sur l'Argentine, leur premier en 9 mois, face à des Pumas longtemps bêtes noires des Bleus. De quoi instiller un souffle d'espoir. Ce 15 de France, battu sur le fil par l'Afrique du Sud, écrasé par la Nouvelle-Zélande, repartait de l'avant avant de finalement s'écraser sur la rudesse des Fidjiens. Alors pour ce tournoi 2019, dont les Français sont loin d'être favoris, l'objectif ne sera pas la première place. Retrouver enfin la confiance perdue, tel sera l'enjeu. Et le match face à un Pays de Galles invaincu depuis presque un an, mais privé de son arrière, Lee Alfpenny, voilà un bon test, assure Jacques Brunel, le sélectionneur du 15 tricolore.
On a eu une année 2018 où l'équipe est passée un petit peu souvent côté de la victoire, elle a besoin de la victoire pour emmagasiner de la confiance. Donc j'attends surtout de ce premier match qui sera un test important pour nous, pour lancer ce tournoi, pour nous donner l'ambition, mais aussi il sera important parce que l'adversaire est de grande qualité, il est en confiance lui. Donc voilà, on a un challenge. Le challenge c'est de battre un des favoris du tournoi et c'est ensuite de nous donner cette confiance dont on a besoin.
Volonté de relancer la machine bleue avec également à l'esprit la Coupe du Monde en novembre, mais aussi contraint par les absences d'éléments d'expérience comme Camille Char, Abbas Slimani ou Johan Maestri, le sélectionneur aura joué l'ouverture dans sa liste. 5 jeunes ont fait leur apparition dans le groupe réuni à Marcoussis depuis dimanche dernier. L'ouvreur champion du monde des moins de 20 ans, Romain Tamac, et ses coéquipiers de Toulouse, l'arrière Thomas Ramos et le pilier Dorian Aldeguerri, le 3e ligne de La Rochelle, Grégory Aldrit, et le 2e ligne Montpellier. Paul Willemse sont également là. Willemse, sud-africain de naissance et récemment naturalisé français. Des éléments à inclure dans le groupe France et qui pourront bénéficier des présences des Clermontois Wesley Fofana et Morgan Parra. 114 sélections à eux deux. Parra, frustré d'avoir manqué la dernière tournée, espère apporter sa pierre à la reconstruction du 15 de France.
J'avais tellement envie de revenir au sein du groupe France que quand il t'arrive une blessure, surtout au dernier moment, c'est frustrant. Maintenant, après, voilà, même si j'étais pas à la tournée, je me sens du groupe. Voilà, il y a eu la difficulté. Je pense pas que il y a n'importe quel joueur peut révolutionner tout. Ça existe pas. Il y a que collectivement que tu peux faire les choses et évoluer et de grandir ensemble.
Amorcé par une victoire sur le Pays de Galles avant d'aller en Angleterre se mesurer à l'un des 2 favoris du tournoi, avec l'Irlande, le défi est d'autant plus compliqué à relever que le dernier match face aux Gallois dans le 6 Nations s'était résumé à un exploit individuel de Gaël Ficou, des erreurs défensives fatales et une défaite sur le fil, 14-13. Un condensé des qualités, mais aussi des mots du 15 de France.
Et l'an dernier, le 15 de France avait pris la 4e place du tournoi des 6 Nations avec 2 victoires en 5 matchs. Allez, comme promis, le football pour finir. Les matchs un petit peu partout en Europe s'achèvent. C'est notamment le cas en Italie avec un intéressant Lazio de Rome Juventus Turin pour le compte de la 21e journée du calcio. On retrouve pour en parler notre correspondant dans la péninsule, Matteo Cioffi. Buonasera.
Bonsoir Eric.
Alors la Juve a été dominée à Rome, mais a gagné 2-1.
Oui, en effet, la Juve moins belle de cette saison est passée très à côté de sa première défaite en championnat, dominée par la Lazio qui a ouvert le score grâce à un but contre son camp de l'Allemand Emre Can. La vieille dame a eu l'instinct de remonter et de s'imposer à la surprise générale. À l'égalisation du Portugais, Cancelo a fait suite le pénalty gagnant d'un autre Portugais, le plus fameux de tous, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo qui a réalisé son 15e but et qui a offert à son équipe la plus inespérée des victoires.
Alors la Juventus de Turin, du coup, est bon, évidemment toujours leader. Hein, 11 points d'avance sur Naples maintenant. Naples, auteur du nul hier sur le terrain du Milan AC. Bon, un triste 0-0, mais quand même intéressant à plus d'un titre, Matteo. D'abord parce qu'il avait lieu au stade San Siro, la même où le Sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, avait été la cible d'insultes racistes lors du match face à l'Inter de Milan. Alors hier, comment ça s'est passé? Plutôt bien, je crois.
Oui, plutôt bien, on était dans le même stade, mais il y avait vraiment une autre ambiance. Koulibaly, vous l'avez dit, avait été victime d'insultes racistes le 26 décembre dernier, mais hier, au contraire, il a été très bien accueilli par les tifosi de l'AC Milan et par nombreux joueurs du club de Milanais qui, à la fin de la rencontre, se sont serrés autour du défenseur sénégalais en signe de respect.
Un mot sur Carlo Ancelotti, c'est un match important, bizarre même pour lui.
Oui, soirée spéciale aussi pour Carlo Ancelotti. Pour lui, tout le stade de San Siro s'est levé pour l'applaudir. Le technicien n'a jamais caché son profond lien au club milanais avec qui il a tout gagné, en veste d'entraîneur, soit en veste de joueur. Et c'est pour ça qu'à la fin du match d'hier soir, il a encore une fois déclaré « Dans ma vie, je voudrais jamais affronter AC Milan ».
Alors troisième au classement, eh bien c'est toujours l'Inter de Milan à 19 longueur de la Juve, mais les interistes ont chuté tout à l'heure au Torino à 1-0.
Ajouter, oui, une défaite qui fait vraiment très mal à l'équipe de Luciano Spalletti qui vraiment a des passages à vide qui soulèvent pas mal de doutes, comme celui d'aujourd'hui face au Torino, un coup de tête du défenseur Rizzo, et voilà la défaite sur un terrain où honnêtement les interistes pouvaient arracher une victoire et rester, disons, en course pour la deuxième place au classement.
Alors le Milan AC derrière les interistes à 5 longueurs, puis juste derrière un point, cinquième, on a la Roma qui a vécu une deuxième mi-temps catastrophe à l'Atalanta Bergame aujourd'hui. La Roma menait 3-0, score final 3 partout.
Oui, un match un peu fou, vous l'avez dit, 3-0 pratiquement en première mi-temps, puis 3-2, 3-3, qu'est-ce qui s'est passé? La Rome, comme l'Inter, a vraiment des gros problèmes à rester concentré pendant tout le match. Et à la fin de la rencontre, le même entraîneur Eusebio Di Francesco a déclaré au micro des journalistes, moi je deviens fou avec cette équipe-là. S'il devient fou, je ne sais pas les tifosi, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir?
Grazie mille, merci beaucoup Matteo Cioffi. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura un savoureux S-Rome Milan. Assez, on passe à l'Espagne maintenant, les résultats, pas de souci pour le Barça, vainqueur à Gérone 2-0 avec un but de l'inévitable Lionel Messi. L'Atlético Madrid est à 5 points à l'issue de cette 21e journée. Le Real Madrid à 10 après son succès 4-2 sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. Karim Benzema inscrit un doublé. En France, fin ce soir du 22e épisode, le Paris Saint-Germain vient à l'instant de battre au Parc des Princes Rennes 4-1. Le but rennais était inscrit par le Sénégalais Mbaye Niang, le PSG leader avec 13 points d'avance sur Lille et 16 sur Lyon, qui l'a emporté à Amiens 1-0. Autre résultat, Montpellier-Bacan 2-0, Toulouse-Angers 0-0. Voilà, avant de se quitter, de remercier Hélène Avril qui était à la réalisation. Eh bien, une info concernant la CAN 2019, elle aura lieu, vous le savez, en Égypte, mais la CAF vient de déplacer le début de la compétition d'une semaine seulement. Elle aura lieu, notez-le, sur vos agendas à partir du 21 juin prochain. Allez, on se quitte. Bonne soirée à vous. Au revoir.